Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix des États-Unis 2022 qui a eu lieu sur le toujours magnifique circuit des Amériques à Austin au Texas. J'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou, ça va?
Ça va bien toi?
Oui, ça va très bien.
Écoute, je suis super content en fait de revenir sur un Grand Prix complètement fou.
Fou est un mot juste, je pense.
Ouais, et je dois dire tout de suite, pour faire une référence soccer déjà là en partant, c'est à l'inverse de ce qu'on a vu du match entre le CF Montréal et New York City FC. Ouais. Donc, chapeau au CF Montréal pour leur parcours historique, mais au moins, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur la Formule 1, comme si je le faisais pas déjà.
Jusqu'à la fin de la saison.
Exact. Donc, on va revenir tout de suite sur ce Grand Prix des États-Unis qui a été, comme on l'a dit, riche en rebondissements. Max Verstappen a remporté ce Grand Prix devant Lewis Hamilton. Charles Leclerc finit troisième. Sergio Perez, quatrième. George Russell, cinquième. Lando Norris, sixième. Fernando Alonso, septième. Sebastian Vettel, huitième, pardon. Kevin Magnussen, neuvième. Et Yuki Tsunoda termine dixième. On a perdu Lance Stroll, Valtteri Bottas et Carlos Sainz, qui était parti en pole position, mais qui aura en fait complété 400 mètres à la suite d'un accrochage avec George Russell. Marc-André, on va commencer tout de suite avec un classique, tes évaluations post-Grand Prix, top contre-performance et moment cocasse.
Écoute, pour ce qui est de la performance du jour, je pense qu'on pourrait en nommer plusieurs aujourd'hui. Quand on parlait de rebondissements, là, on en a eu de partout, là, que ce soit à l'avant, Max Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc qui part quand même 12e, qui finit 3e, qui a fait un bon parcours, qui a bien tenu quand même lorsque Verstappen l'a attaqué. Ensuite, on pourrait aussi aller vers Vettel qui a connu une course hallucinante. Même chose pour Alonso. Donc, aujourd'hui, je suis très mitigé, là, honnêtement, pour ce qui est de la performance du jour. Beaucoup, beaucoup de pilotes sont ressortis du lot. Puis, c'est à l'image, justement, du Grand Prix qu'on a eu.
Ah oui, définitivement. Écoute, je regarde le classement, il y a eu tellement de bons pilotages. Évidemment, Max Verstappen, parti deuxième, et qui a fait un sacré départ. Lewis Hamilton, qui s'est retrouvé dans une position où il pouvait gagner, mais en même temps, il était, comme on dit en anglais, à sitting duck. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Charles Leclerc, qui, évidemment, avec sa pénalité, qui monte sur le podium. Sergio Perez, qui fait très bien. Lando Norris, qui fait des dépassements exceptionnel en fin de course. Fernando Alonso, après son semi-vol plané, on en reparlera de cet incident qui finit septième. Sébastien Vettel, qui aurait pu aller chercher à la limite une cinquième ou une sixième place, mais qui nous sert de très beaux dépassements. Kevin Magnussen, sur une stratégie d'un arrêt. Écoute,
Impeccable.
Il y a eu tellement de bons pilotages aujourd'hui là, que je suis même, et je le disais à Jean-Sébastien pendant la course, je pense que c'est la deuxième meilleure course de la saison, la première étant évidemment Grande-Bretagne. Vraiment, on a eu de la bataille un peu partout. Donc, c'est très difficile pour moi de donner une performance au top. Évidemment, Sébastien Vettel a reçu le vote du public et avec raison, une très belle performance de sa part. Contre-performance?
Du côté de la contre-performance, écoute, on pourra en nommer quelques-uns aussi, bien qu'il y a eu plusieurs belles performances. Je pense que Daniel Ricciardo, pour son week-end en général, ça a été excessivement difficile encore une fois. En qualification, il n'a jamais réussi à trouver son rythme. On dirait que aujourd'hui rien n'allait. En course, ça n'a pas été mieux. Donc, vraiment, je pense que ce serait peut-être celui que je viserais en particulier. Sinon, ben malheureusement pour Carlos Sainz, qui est très malheureux, il s'est fait un peu frapper, mais en même temps, je suis départagé sur les torts, à quel point Russell était l'unique responsable de cet accident. Mais malgré tout, au moins, il va avoir eu la chance de monter la côte pour ce qui est de Carlos Sainz.
Ouais, au moins. ouais, ça dure. Ça a duré 400 mètres. Dommage en plus, mais...
Vraiment.
Quand même. Moi, je vais le donner à Lance Stroll parce que c'était un bon départ. Il s'est retrouvé troisième. On en reparlera d'ailleurs de tout ça. Mais de le voir dans cette situation, c'est décevant. Mais compte tenu de ce qu'il a fait en Australie, c'est un retour à la normale. Donc, je pense que Lance Stroll, contre-performance, définitivement. Valtteri Bottas aussi, il a perdu l'arrière, mais je pense que Alfa Romeo pouvait facilement aller chercher une 9e, 10e place, mais de voir sa course se terminer ainsi, c'est dommage.
Vraiment, très dommage que ça se finisse ainsi pour lui.
Ouais, et moment cocasse?
Moment cocasse, la classique arrivée de Shaq, je pense, dans sa magnifique voiture. Et je suis un peu triste de ne pas l'avoir vu encore une fois sur le podium, mais je pense qu'on voulait, on voulait pas gâcher le magnifique meme qui existait déjà, je pense.
ouais, parce que je connais des memes qui ont été ruinés parce qu'ils ont trop surfé sur la vague et qu'ils ont décidé de revenir. Donc, au moins, ben là, Shaq est en performance sur le podium en ce moment, ben, au moment où on se parle, donc au moins il y a ça. apparemment, bon, j'ai pas regardé le tout sur TSN parce qu'il y a le feed de Sky Sports, mais Martin Brundle, le retour du Grid Walk un an après la fameuse saga avec Megan Thee Stallion puis son, je suppose, son PR. Cette fois-ci, c'est Brad Pitt qui est tombé sous la loupe de Martin en refusant de parler avec Martin Brundle.
Oh!
Évidemment, il y a Tim Cook, le big boss de Apple, qui a brandi le drapeau d'arrivée, mais c'est comme s'il disait « Ah, OK, bon, je suis là. OK, merci, bonsoir. »
Je pense qu'il n'y a pas eu le cours avant pour l'enthousiasme d'une fin.
Je pense qu'il était bien content d'avoir... si c'est vrai qu'il a payé de l'argent pour brandir le drapeau à Damier, tant mieux.
Tant mieux, parce que...
C'était bien investi, mais je pense que j'aurais mis un peu plus dans train. Il aurait pu demander au 1642 des leçons.
Peut-être qu'il se disait finalement, ouais, peut-être que mon investissement ne valait pas tant la peine, c'est pas si le fun finalement.
Ouais. Mais bon, au moins.
Pauvre Tim.
Ouais. Au moins, ce Grand Prix était. Au moins, ça ne représente pas ce que ça a été ce Grand Prix parce que, mon Dieu, oui, d'accord, au début, c'était pas si étincelant, mais ça s'est animé quand même. Donc, déjà au départ, allons-y tout de suite. Russell contre Sainz. Bon, Carlos Sainz qui partait en pole position et qui arrive en haut de la côte est déjà deuxième, proche de se faire dépasser par l'extérieur par Lewis Hamilton, mais George Russell le tape et est obligé de... Il fait un tête à queue. Crevaison et au final abandon de Sainz et Russell a été pénalisé de 5 secondes. Est-ce que c'était pour Russell la... tu disais que tu étais départagé, donc je voudrais avoir ton opinion là-dessus.
Ouais. Ben départagé dans le sens où bon, je pense que Russell méritait une pénalité là, sans contredit, mais ça me semblait quand même une incident de course par la vitesse dont Sainz est arrivé dans le virage. Il était très lent. Après ça, Russell a perdu un peu je pense que son freinage n'a pas été total non plus. Fait que je pense que c'est malheureux, mais c'est un peu un incident de course qui, malheureusement, Russell est le perdant là-dedans. Et avec raison, je pense que sa pénalité, il la méritait parce que il était très incisif à ce moment-là. Il voulait gagner des positions. Je pense qu'il y avait dans son viseur Carlos Sainz, mais il a été très maladroit sur cette séquence-là.
Ouais, c'est vrai. Je pense, mais en même temps, j'ai eu la discussion avec notre cher Carl Sousa Teixeira, qui était présent lors du dernier épisode du bulletin GP, qui disait que bon, justement, Sainz avait un peu la responsabilité, mais en même temps, Russell est arrivé quand même
tellement vite.
Hein, il a bloqué les roues. Donc, ça, c'était complètement dément de la part de Russell. C'est clair qu'il était fautif là-dessus. Je suis pas prêt à donner complètement le blâme à Sainz parce que c'est sûr que il voulait éviter Lewis Hamilton aussi qui était à côté de lui. Donc je ne pense pas que s'il voulait se positionner là pour juste pour le fun, mais quand même, ça a été... je pense que de toute façon, Russell était amplement fautif là-dessus. Donc, je pense que c'était bien mérité de la part de Russell qui a eu sa pénalité. Sinon, quand même, ça a été, somme toute, à part l'incident entre Russell et Sainz, il y a eu Sergio Perez qui a perdu un bout de son aileron aussi. Puis, comme on a vu, en fait, au Grand Prix de Grande-Bretagne avec Charles Leclerc, ça n'a pas tant affecté sa performance.
Ouais, et on dirait qu'il allait même plus rapidement dans son petit bout d'aileron parce que dans les tours qui ont suivi, il était complètement inarrêtable. Il a été tellement rapide. Donc, on est à se questionner des fois à quel point la technologie est folle de voir qu'une voiture peut continuer quand même à bien performer. Est-ce que le vent peut avoir un lien aussi peut-être avec ça? Mm-hmm. Mais oui, effectivement, Carlos Sainz volait sur la piste littéralement là, sans sa petite pièce. Puis d'ailleurs, je crois qu'il l'a jamais reçu. Il a gardé la même aileron. Là. J'ai pas... À moins d'une erreur, là, j'ai pas vu de changement d'aileron pour Perez.
Non, même pas.
C'est ça. Okay. Puis je pense que c'est dans l'ADN aussi de la Red Bull de réussir à bien se comporter, même s'il y a un petit souci. C'est aussi ça dans la construction des voitures qui est beau à voir des fois.
Mmh. Ouais, parce que quand même, je me souviens dans le passé, ces ailerons. Étaient quand même les ailerons des anciennes générations de Formule 1 étaient quand même assez
minutieuses
et même fines comme des lames de rasoir sur un pneu, donc ce qui pouvait causer une crevaison facilement. Bon, c'est encore le cas, mais c'est sûr que tu perds un peu de downforce tout dépendamment des circuits, mais pour Perez ça n'a été aucunement le cas. Puis, à un certain moment aussi, je pensais qu'il allait avoir un drapeau noir avec la pastille orange, comme ce que Kevin Magnussen a eu à 3 reprises cette saison. Donc, ça aurait vraiment frustré un certain Gunther Steiner, surtout à son Grand Prix, au Grand Prix national de son écurie. Mais ça n'a pas été le cas. Dieu merci pour Perez. Sinon, on en a parlé, Bottas. La course a été quand même, ça a été un peu dull à ce moment-ci. Et là, la voiture de sécurité est arrivée au moment où Valtteri Bottas a fait son tête à queue. Et c'est là où on a vu Charles Leclerc et Sébastien Vettel s'arrêter au puits. Donc, et pour Charles Leclerc, lui, il partait de la 12e place. Finalement, je ne sais pas c'était quoi le plan B ou encore le plan E de chez Ferrari, mais ce plan a relativement bien fonctionné dans le premier relais. Parce qu'ils se sont retrouvés quand même en bonne position pour aller chercher de gros points et surtout pour Leclerc dans cette course pour la deuxième place au championnat des pilotes.
Exactement, dans l'optique où Ferrari voulait obtenir le plus de points possible, pas nécessairement pour voler le titre à Red Bull parce que ça devenait pratiquement impensable de pouvoir le faire, mais au moins pour amasser des points, c'était dans cette optique-là que je crois que le premier relais était très important et visiblement, ça a été gagnant. Puis je pense que c'est aussi dans... Ça fait partie du sport de prendre une voiture, de mettre des pneus, puis d'espérer se rendre le plus loin possible dans la course sans avoir de changement de pneus pour espérer justement avoir un incident de course qui créerait une chance, que ce soit une voiture virtuelle ou même une voiture de sécurité, comme dans le cas qui nous concerne ici. Donc, ça a été un bon plan. Ferrari l'a respecté. C'est malheureux que Carlos Sainz n'ait pas terminé la course parce que je pense que dans ces conditions, Ferrari aurait pu très bien performer aujourd'hui. Malheureusement, ils se font couper l'herbe sous le pied encore par cet abandon qui on commence à ne plus les compter. Là. Ouais. Mais c'est très malheureux parce que là, c'est Mercedes qui remporte de précieux points à Austin. Il reste 3 courses. La course pour la deuxième position n'est pas encore terminée. Ça va être excessivement intéressant.
Oui. Oh non, il y a quand même 53 points qui séparent Ferrari de Mercedes. Et il reste 4 séances officielles parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le sprint au Brésil aussi. Donc, il reste 4 courses, entre guillemets, avec des points. Donc, c'est quand même assez important pour autant pour Charles Leclerc de rester bien focus et pour Carlos Sainz d'être moins malchanceux aussi. Maintenant, on va parler un des gros points de ce Grand Prix. Ça a été cet incident sur la ligne droite arrière entre Fernando Alonso et Lance Stroll. Au moment où on se parle, on enregistre, il est présentement 18h22 heure du Québec. À moins que je vérifie, il n'y a pas encore eu de décision rendue sur est-ce que Lance Stroll ou Fernando Alonso est fautif. Mais aux yeux de la FIA.
Exact, j'ai rien vu encore à l'instant même. Mais quel incident bizarre. J'ai de la difficulté à me prononcer là-dessus. Est-ce que c'est Stroll qui a fait un mouvement vers la gauche qui a créé cet accident-là? Est-ce que c'est juste la témérité du côté d'Alonso qui a beaucoup trop qui s'est beaucoup trop fait aspirer par la voiture de Stroll et au dernier moment a voulu tourner pour éviter Stroll? J'ai de la misère à me prononcer sur cet incident. Il faudrait que je la revoie encore sous d'autres angles, mais pour l'instant, ça me semble un incident de course où les deux sont responsables à la fois. Je pense que Stroll a peut-être fait un petit mouvement, mais Alonso, à un moment donné, ça me rappelle un peu l'incident entre Verstappen et Hamilton quand ils se sont rentrés dedans. À un moment donné, tu vois que le gars est là, tasse-toi vers la droite, t'as de l'espace, prends pas de chance. Puis oui, tu veux aspirer, mais...
Ouais, mais en même temps, je pense que Stroll est principalement fautif dans l'action parce que, et j'ai regardé justement l'émission d'après-course de F1 TV qui est d'ailleurs disponible sur YouTube si jamais vous n'avez pas F1 TV. Puis Sam Collins dit, regarde la... analyse la situation et on voit Stroll regarder le miroir à gauche puis tourne tout de suite après. Donc, okay. Moi, je pense Alonso était déjà prêt à effectuer le dépassement, mais Stroll le fait genre un peu à la dernière minute. Mm-hmm. Donc, moi, je me dis, et je disais ça aussi à Jean-Sébastien, moi, je pense que c'est Stroll qui aurait dû anticiper le mouvement avant pour empêcher Alonso, je revois l'incident de ma tête justement, puis je pense que non, c'est peut-être pas une bonne idée que ce soit lui qui anticipe, parce que sinon ça aurait été encore, je pense qu'il aurait eu contact, mais Stroll doit, en gros, Stroll doit amélioré sa vision.
Ah oui, ça, ça c'est pas de doute. C'est.
Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est un problème qu'il y a eu depuis le début de sa carrière. Et surtout, celui où ça a fait mal, c'est au Grand Prix d'Australie avec en qualification avec Nicolas Latifi. Alors, moi, je pense que Stroll doit améliorer ça. Là où je pourrais dire, est-ce que Alonso est fautif là-dessus ou a une part de responsabilité? Moi, je ne pense pas qu'Alonso soit si fautif, mais je pense qu'il aurait pu essayer de se mettre un peu plus hors trajectoire aussi.
C'est ce que je reproche un peu à Alonso, c'est d'être resté vraiment sur la trajectoire normale et d'avoir très tardivement évité Stroll. Mais comme j'ai dit, c'est pour ça que j'avais de la difficulté à me prononcer parce que j'étais vraiment tiraillé entre les deux. Mais c'est un petit peu ce que je reprochais à Alonso. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau l'explication, mais faut que tu dépasses l'autre gars. Fait qu'il faut quand même que tu changes de trajectoire à un moment donné dans ton dépassement. Je trouve que ça a été fait tardivement. Mais malgré tout, je suis d'accord que Stroll a sa part de responsabilité et elle est sûrement plus importante.
Et d'ailleurs, j'ai un bout d'extrait d'une entrevue de Lance Stroll, grâce assisté de Philippe Crépeau de Radio-Canada Sport, qui dit que, bon, Stroll dit que c'est un incident de course. Je voyais Fernando et j'ai bougé tard, mais je lui ai laissé de la place. Et il aurait pu se déporter un peu plus pour me dépasser. C'est dommage car la course se passait bien. Donc ici, il a dit, il a bougé tard. Donc il reconnaît une part de son blâme, de sa faute en fait. Mais il dit que effectivement, comme on dit, Alonso aurait pu se déporter un peu plus. Il y avait de l'espace. D'accord, c'est hors trajectoire, mais c'était pour être un peu plus prévoyant. Vas-y.
Non, ben, tu sais, au final, je me dis, on dirait qu'il a voulu cacher son dépassement et surprendre Stroll, alors que c'était visible que Alonso avait la vitesse pour le dépasser, peu importe ce qui se passait. La ligne droite était encore très longue. Donc, c'est de là mon point où je trouve qu'Alonso a été téméraire et a voulu vendre un peu la chair, mais finalement, il s'est retrouvé. Il a été gagnant. Il a terminé septième.
Oui. Mais
c'est pour ça que je lui donne une petite part de responsabilité là-dedans. Parce que je trouve que ça a été long avant qu'il change de trajectoire.
Ouais.
Un petit peu comme Stroll, finalement.
Ouais. Mais en gros, moi, je pense que Stroll doit encore faire attention à sa vision périphérique parce que ça a coûté à Aston Martin des points hyper importants pour le championnat. Ça, c'est la Fédération française. Évidemment, il y a cette histoire, la Fédération française de la Loose qui dit « Ah, ben ça va être beau l'ambiance entre les deux l'année prochaine.
» Bon, je pense que oui.
Ben, ils vont enterrer l'âge de guerre très rapidement,
oui.
Mais ça aurait pu vraiment, vraiment mal se terminer, en tout cas, là. Donc, l'incident n'a pas été quelque chose de hyper dangereux parce que on a eu exactement la même chose avec Mark Webber en 2010. Ça a été, c'est encore des images assez spectaculaires à voir. Mm-hmm. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures ou quoi que ce soit. Mais quand même, Stroll doit améliorer sa vision périphérique. Et c'est un reproche que pas mal tout le monde lui fait. Même ses plus grands admirateurs vont probablement reconnaître qu'il a un problème de vision périphérique. Et pourtant, c'était une très bonne fin de semaine pour lui. Il se qualifie septième, se retrouve cinquième sur la grille. Au premier tour et troisième.
Il était dans un bon jour. Il faut l'admettre.
Ah, il était vraiment dans un bon jour. Et hop, du jour au lendemain, tout est perdu à cause d'un incident comme celui-là. Donc, c'est dommage. Mais du côté de Fernando Alonso, c'est du vintage Fernando. Écoute, my God, quel pilotage. Et, écoutez, il a quoi? 42, 41 ans?
41 ans, ouais. Tout ça avec les Alpine aussi. Faut pas se le cacher. Oui, ils sont présentement quatrième. C'est une bonne voiture malgré tout. Mais quand même, là, pour revenir de l'arrière comme ça et terminer septième avec de beaux dépassements et, comme on dit, une petite flamme de jeunesse là, pour Alonso.
Exact. Donc, vraiment, vraiment, c'était du Alonso classique et je suis vraiment content pour lui parce qu'il prouve qu'il a, il a encore de la grinta dans le sang, là. Donc, vraiment, il a été exceptionnel. Mais il mérite mon vote de pilote du jour. Sinon, on va parler de l'arrêt au puits un peu lent de Max Verstappen qui a failli lui coûter la victoire. C'est une rare erreur de l'équipe d'arrêt au puits de Red Bull. Et en même temps, lors de l'arrêt de Sergio Perez un peu plus tôt dans la course, un arrêt de 2.1 qui était, je pense, un des arrêts les plus rapides, sinon le plus rapide de la saison. Mais cet arrêt au puits a presque ruiné les chances de victoire de Verstappen, si ça avait duré un peu trop longtemps aussi. Mais aussi, et puis je regardais la course avec des amis que j'ai invités. Salutations à Nicolas et à Marianne. Verstappen en médium contre Hamilton en dur, j'ai été surpris d'autant plus que Verstappen, lui aussi, il avait quoi? Deux trains de pneus durs restants aussi. Ouais. Donc, c'était une stratégie osée de la part de Red Bull de faire sortir Verstappen en médium.
Oui, ben c'est du Red Bull tout craché. Hein. On tente le tout pour le tout, puis on a une confiance aveugle envers Verstappen pour qu'il soit capable de faire des miracles. Et pour revenir sur l'incident de l'arrêt au puits, ça m'a semblé un petit problème mécanique aussi. Une chance qu'on a deux pistolets également de près pour ça. Mais oui, 11 secondes, c'est très inhabituel pour Red Bull et c'est pour ça que vous avez entendu un peu le sarcasme de Verstappen durant la course. J'ai adoré la réponse, par contre, de son ingénieur qui l'a remis à sa place pour Dietrich. Donc, cette course-là était tellement émotive pour tout le monde.
Ouais.
Je pense que les mécanos voulaient tellement bien faire. Ils ont sûrement été tellement déçus par cet arrêt au puits, alors qu'il avait fait tellement bien pour Sergio Perez, comme tu l'avais dit, avec 2.1. C'est extraordinaire avec la nouvelle technologie, avec la technologie qui n'existe plus maintenant, là, avec le tout est humain là, maintenant. Là. Donc, Red Bull réussit à se surpasser fin de semaine après fin de semaine. Et effectivement, je pense que la décision était audacieuse, mais finalement, c'est encore une réussite pour Red Bull. Il est allé chercher rapidement Hamilton. La médium semblait plaire à la Red Bull en fin de semaine. Et surtout, ce train de pneus, parce qu'il volait littéralement sur la piste. Et ça a donné une victoire émotive, une victoire avec un sens beaucoup plus large que seulement une petite victoire à Austin.
Oui, parce qu'il faut le préciser, ce samedi avant le début de la séance de qualification, on a appris le décès de Dietrich Mateschitz, le cofondateur de Red Bull et propriétaire de l'écurie, donc qui a eu un impact énorme dans l'univers de la course automobile, pas seulement en Formule 1, mais aussi un peu partout dans les autres catégories automobiles. Donc, et surtout dans une fin de semaine où, évidemment, côté hors-piste, ça a été drainant pour Christian Horner et compagnie, avec l'histoire du cap salarial qui est encore loin d'être réglé. Donc, il fallait que en piste, ce soit parfait, on va dire presque parfait, mais de pouvoir célébrer ça en l'honneur de Dietrich Mateschitz et aussi de célébrer le championnat des constructeurs que Red Bull a remporté. Donc, c'est un premier titre des constructeurs pour l'écurie autrichienne depuis 2013. Donc, c'est quand même quelque chose à faire. Et on va parler aussi de leur prédécesseur slash successeur après 2013, Mercedes. Je pense que Austin, c'était avec évidemment avec Zandvoort, la meilleure chance. Je dirais que Zandvoort, c'était une meilleure chance. Ouais. Parce que Austin, c'était plus circonstanciel dans un sens où c'est Red Bull qui a fait une erreur et qui a fait en sorte que Hamilton s'est retrouvé en tête de manière inattendue, mais il était en même temps, excusez-moi le terme, un sitting duck vers la fin de la course parce que il pouvait rien faire contre les médiums de Verstappen et la voiture en même temps. Donc, Zandvoort, c'était une meilleure opportunité pour Mercedes, mais quand même, c'était une bonne conduite de la part de Lewis Hamilton.
Ah oh oui, on aurait vu du bon vieux Lewis qu'on aimait voir. Il était dans une bonne forme en fin de semaine. Sa voiture était dans une bonne forme. Le mental était là également. Je l'ai senti tellement concentré sur son objectif tout au long de la course. Et j'ai aimé aussi sa petite bagarre avec Verstappen. Ça met un bombe sur la saison aussi, je crois, de s'être battu, même si finalement, au final, il ne pouvait plus rien faire. Ça met un bombe un peu sur leur confrontation de l'an dernier, là, de pouvoir se rebattre, de ne pas avoir d'accrochage.
Ah, donc, Dieu merci, ouais.
On voit que tout le monde a maturé dans tout ça également. Mais non, excellente course de Lewis. J'ai adoré le voir se battre comme il le fait. Quand tu regardes ça, il remet sur le plan que c'est encore possible pour Mercedes d'aller chercher la deuxième place dans une saison qui a semblé catastrophique, mais finalement, Russell a été constant pendant un bout. Hamilton a pris le relais. Malgré tout, c'est une bonne saison pour Mercedes. Quand on va faire le retour sur cette saison, je pense que je vais être plutôt positif parce qu'au final, ils sont dans la course pour la deuxième position. Ils visaient beaucoup plus haut, mais c'est quand même un très beau prix de consolation si ils sont capables de profiter des erreurs de Ferrari, des abandons, de tout ce qui s'est passé pour se créer un chemin à la deuxième position. Je pense pas qu'ils vont dire mission accomplie dans une saison de misère comme ça. Ça me semble quand même être fait. Là.
Ouais, parce que comme je disais, il reste à peu près quatre courses entre guillemets avec des points. Donc, pour Mercedes, c'est l'important, c'est de maximiser. Je pense que Zandvoort, Singapour, c'était les meilleures chances pour aller chercher une victoire.
Après ça va devenir très difficile. Quoi que Hamilton au Brésil peut-être sortir un lapin de son chapeau.
Oui, il est souvent.
Mais encore là, la Red Bull va être très rapide, sûrement au Brésil. Donc.
Et la Ferrari aussi, parce que je pense que le moteur Mercedes pourrait souffrir sur le dernier secteur à Interlagos. Mais impossible n'est pas Mercedes, comme disait un certain Napoléon Bonaparte. on va parler des mentions honorables parce qu'il y en a eu tellement. On va parler de Sébastien Vettel. Et je disais ça sur Twitter lors du Grand Prix. Lance Stroll a ruiné une partie de la course pour Aston Martin. Mais Aston Martin a ruiné celle de Sébastien Vettel. Donc, it's gone full circle. Mais Vettel a sauvé les meubles avec de très beaux dépassements. Entre autres, au virage 17 et 18 sur Alex Albon. Et dans le dernier tour, cette bataille contre Kevin Magnussen dans le dernier tour qui était
incroyable.
Incroyable. Et si vous avez la chance, encore F1 TV, de visionner les caméras embarquées de Magnussen et de Vettel, c'est de toute beauté. Parce que
ouais.
C'est parce que on voit un Vettel qui, je pense, Bon, on va dire depuis qu'il a annoncé qu'il se retirait de la Formule 1, il prend de plus en plus de plaisir à conduire cette Aston Martin qui a fait vraiment du progrès. Et aujourd'hui, il a encore un départ monstrueux de sa part. 5 places au départ. 5 places au premier tour, c'est quand même incroyable. Et je pense qu'il aurait pu finir 5 ou 6e.
Oui, complètement. C'est un Vettel serein qu'on voit, qu'on aperçoit présentement. Il semble s'amuser, prendre du plaisir, vouloir se dépasser pour dire un dernier adieu comme Vettel le mérite. Et puis, quelle performance aujourd'hui, la dernière bataille. J'ai très hâte d'aller la revoir justement. C'était dans mes projets de soirée là, d'aller revoir ces images-là de tous les angles. Donc, extraordinaire. C'est un moment qui est très, très, très intéressant pour Vettel. Puis, quand on regarde tout ça au final, je pense qu'on a peut-être l'une des plus belles batailles là, qu'on a eues en fin de course là, dans la saison. On en a eu des belles batailles, mais celle-là, je pense que quand je vais refaire un bilan de la saison, sûrement qu'elle va me revenir en tête.
Ah oui, définitivement. Écoute, Vettel était en feu. Kevin Magnussen aussi, le connaissant son tempérament en piste aussi. Il ne s'est pas laissé faire non plus, mais il a été très propre dans la bataille. Et d'ailleurs, les deux écuries, Aston Martin et Haas, se sont lancés des fleurs après cette bataille parce que, on va se le dire, c'était une bataille de toute beauté. Alors, vraiment très content de la part de Vettel. Et justement, parlant de Haas, parce que c'est une fin de semaine assez importante, non seulement parce que l'écurie disputait son Grand Prix à domicile, mais ils auront aussi un nouveau commanditaire en MoneyGram, enfin un sponsor qui est legit.
Tu vas amener le professeur, là.
Non. Écoute, j'ai déjà jinxé 5 pilotes lors du Grand Prix du Canada virtuel. Je vais me retenir. Mais quand même, Kevin Magnussen, chapeau. Et chapeau à Haas aussi, dans les circonstances aussi. Parce qu'il a fait une course à un arrêt, quand même. C'est fou. Parce que Magnussen, avec Mick Schumacher, est parti en gomme. Ouais, il est parti en gomme mid, en gomme dure. Il s'est arrêté au 18e tour, là où il y avait la voiture de sécurité et tout. Et il a fait tout le relais. Donc, il a fait 56-18. Il a fait 38 tours avec la gomme médium. 38 tours avec la gomme médium.
C'est fou.
Puis il a été capable. Puis je pense à un certain moment, il s'est retrouvé sixième. Au maximum sixième. Et il a tellement bien contrôlé sa voiture. Mick Schumacher aussi, on va se dire, il faisait une bonne course, mais il y a eu un contact avec Nicolas Latifi. C'est qui a ruiné sa course quand même. Donc, je ne vais pas me cacher ou. Quand même une stratégie à deux arrêts, mais ça a été un peu plus difficile pour Mick. Pas de sa faute.
Non, effectivement. Mais un peu à l'image de la saison.
Ouais.
Souvent mal pris dans des situations difficiles, autant pour lui que pour les autres. Si on pouvait résumer la saison en une course, je pense qu'on aurait pu juste mettre cette course-là puis on aurait compris tout ce qui s'est passé. Pour ce qui est de Magnussen, wow, chapeau. Il a tenu cette Haas de très bonne manière devant les Américains. Il a donné une belle course contre Vettel. Il aurait pu terminer 8e. Il n'a pas lâché jusqu'au bout. Ça dénote de sa présence puis de l'importance de son retour chez Haas qui amène une sérénité, qui est un retour important que je ne croyais pas autant. Mm-hmm. Mais il m'a fait mentir, puis tant mieux pour lui. Encore une fois, un gros 2 points pour Haas, qui, ils sont un peu hors des courses malgré tout, mais quand même, c'est important, je pense, pour le moral, puis pour, pour remercier tout le support qu'ils ont eu en fin de semaine parce que les Américains ont bien répondu quand même à Aston encore une fois.
Oh oui.
Je me souviens plus de l'assistance, mais ça a été très, très bon durant tout le week-end.
444 000 pour toute la fin de semaine. Donc, il fallait une bonne performance de Haas et on va essayer de parler de en arrière. Yuki Tsunoda qui marque des points. Il était sous enquête, mais je ne pense pas qu'il y a eu quoi que ce soit en fait. Donc c'est une 10e place pour le pilote japonais. À l'inverse, Pierre Gasly qui a connu un dimanche à l'image de la production d'Occupation Double assez difficile. Donc, écoutez, il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir respecté la distance de 10 voitures. Et en plus, il s'est pris une pénalité de 10 secondes pour ne pas avoir servi sa pénalité correctement. Donc, quand on regarde le classement, il finit 14e. Donc, ça fait mal pour Gasly qui doit avoir visiblement hâte de quitter AlphaTauri pour aller chez Alpine. Mais Yuki Tsunoda, c'est exactement la performance que la famille Red Bull s'attend de lui.
Ouais, une performance à la hauteur des attentes parce qu'il devient un peu le chef de maître à partir de l'an prochain, même si Nick DeVries, selon moi, va avoir de très bonnes performances puis va un peu tenir les cornes du taureau. Mais quand je regarde le tout, je suis content que Yuki ait cette performance-là. Puis ça va être important pour lui de tenir ces performances-là et d'être devant Gasly jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher un petit momentum, arriver confiant lors de la prochaine saison en disant « OK, mission accomplie, j'étais voiture égale avec Gasly puis j'ai réussi à le battre puis à prendre ma place dans mon écurie. » Je pense que ça va être excessivement important pour lui. Puis c'est un peu ce qu'il nous a montré aujourd'hui. C'était son écurie aujourd'hui. Il a bien fait. C'est un nouveau Yuki qu'on voit dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Puis je pense qu'il prend de la confiance. Puis on le voit en ce moment, il est allé chercher un point important. Puis Gasly a connu une course difficile. Puis oui, effectivement, je pense qu'il a hâte de partir. Je pense qu'il a hâte de mettre ce chapitre-là de sa vie à l'extérieur. Puis de s'en aller chez Alpine, dans l'écurie française et voir ce qui pourrait arriver avec eux.
Ah oui, et voilà, exactement. Donc, je crois qu'il reste trois grands prix à Pierre Gasly pour quitter... pour quitter AlphaTauri pour aller chez Alpine. Et puis rapidement, Alex Albon aussi, on l'a vu à quelques reprises, mais mon Dieu, il a été dans le coup pour aller chercher des points. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, mais quand même, Albon finit 12e. C'est vraiment impressionnant et d'autant plus que, bon, si jamais Logan Sargeant nous prouve qu'il est doué pour la Formule 1 et tu as vraiment, vraiment hâte de le voir.
Oui.
Je crois que Williams aura probablement un bon duo. Ben, c'est sûr, déjà là, c'est un meilleur duo de pilotes que ce qu'on a. Désolé à Nicolas Latifi, là. C'est notre GOAT, mais il faut être réaliste aussi. Tout dépendamment de ce qui arrivera à Abu Dhabi parce que Sargeant n'a pas encore ses points de super licence pour le moment. Il faut qu'il fasse une très bonne performance à Abu Dhabi pour l'avoir, mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui d'Alex Albon, si Logan Sargeant est capable de faire, je m'attends pas à ce qu'il fasse aussi bien qu'à Albon, mais au moins genre le tiers, ben c'est écœurant pourrait bien faire dans quelques courses. Et Alex Albon l'a fait aussi. Il était dans les points. Et mention aussi très honorable à Lando Norris, 6e, avec de sublimes dépassements aussi qu'on a vus. Donc, chapeau pilote McLaren parce que dans la course au titre, dans la course pour la 4e place, Alpine semble s'envoler, mais McLaren est encore accroché aux pattes d'Alpine. Et d'ailleurs, on va vous donner le classement des constructeurs. Donc, Red Bull officiellement champion des constructeurs. Ils ont 656 points, 469 pour Ferrari, 416 pour Mercedes. Alpine est quatrième avec 149, McLaren avec 138. Et là, ensuite, c'est serré pour la sixième place. Alfa Romeo, qui ne marque pas de points, en a 52. Aston Martin en a 49, mais aurait pu se retrouver devant l'écurie suisse-italienne. Haas est huitième avec 36 points. Un point devant AlphaTauri. Donc, la dixième place de Yuki Tsunoda, elle est hyper importante. Et Williams complète le tout avec 8 points. Et au championnat des pilotes, bon, Max Verstappen a 391 points. Charles Leclerc est deuxième avec 267. Sergio Perez est troisième avec 2 points de moins, 265. George Russell, quatrième. Carlos Sainz, qui ne marque pas de points, pardon, est cinquième. Et Lewis Hamilton, avec cette deuxième place, il n'est plus qu'à 4 points de l'Espagnol. Donc, il y a encore des places à jouer. Il y a encore des places qui se jouent pour les dernières courses. Il en reste 3, plus un sprint au Brésil. Donc, même si les championnats sont décidés, la saison n'est pas terminée pour autant. Il y a encore des enjeux assez importants. Alors, c'est ce qui complète cet épisode, cet après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix des États-Unis. Alors, on sera de retour, et là, cette fois-ci, c'est pour vrai, jeudi. Et on va parler, en fait, de Haas. Maintenant qu'ils ont un nouveau commanditaire, on va savoir maintenant qui va être le coéquipier de Kevin Magnussen. Donc, on vous pose la question, est-ce que ce sera Mick Schumacher ou Nico Hülkenberg? Bien, quelqu'un d'autre aussi, Daniel Ricciardo. Donc, on vous pose la question. Donc, ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et autres. Évidemment, on a notre site bulletingp.com. Puis, au cours de la semaine, je vais publier un article sur le FIM Motorsport Games qui aura lieu pendant la fin de semaine du Grand Prix du Mexique. Donc, une compétition olympique façon course automobile. Donc, bulletingp.com pour lire l'article en question. Et évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace. Donc, on peut avoir beaucoup d'interactions. C'est le groupe Facebook sur la Formule 1 au Québec. Et évidemment, n'oublions pas, à 20h, la Ligue CSC, le championnat de sim racing canadien. Le bulletin GP est un fier partenaire de cette ligue virtuelle. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Ben merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir.
Puis je vois que tu as un chandail des Dolphins.
Ah oui.
Go Steelers. Non. Get lost. Go Steelers.
C'est le retour de toi, en plus.
OK. Bon, ben ça, c'est... écoute, je suis dans la chenoute. Donc, on se retrouve jeudi à savoir si on va se chicaner, Marc-André et moi, à savoir si nos équipes de NFL ont gagné. À suivre. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve jeudi pour l'épisode numéro 124 et la semaine prochaine pour l'après-course du Grand Prix de Mexico City. Salut tout le monde!
Salut à tous!